Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas de la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Scuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
Gilbert Bribois.
Avec Jérôme Rotten, Daniel Riolo, Eric Dimeco. Donc, on est ravis dans l'after d'avoir un nouveau partenaire, des cousins, des amis, SoFoot, qui évidemment sort tous les mois. Alors, il y a SoFoot traditionnel, il y a SoFoot Club, et puis il y a SoFoot.com aussi qui marche bien. Le prochain SoFoot sort dans les heures qui viennent, avec en couverture le Gegenpressing. On va en parler avec l'un des auteurs de cette longue enquête qui s'appelle Maxime Brigand. Maxime, bonsoir.
Bonsoir.
Salut.
Fantastique nom, hein, Maxime. J'adore. Un nom de
Maxime ou Brigand.
Un nom de corsaire.
Un nom de corsaire, un nom de bandit.
Un nom de pirate, quoi. Voilà. Alors, Maxime, qu'est-ce qui vous a pris de faire votre une sur le Gegenpressing là?
Alors, c'est une longue réflexion. En fait, on a commencé ça en décembre, et en fait, l'idée c'était d'évoquer à notre manière le titre de Liverpool qui allait arriver. Voilà, avant le confinement. Et donc d'expliquer un petit peu le Gegenpressing, qui est l'idée tactique de Jürgen Klopp, et d'expliquer un petit peu comment tout ça avait été mis en place et comment l'Allemagne en une vingtaine d'années a un peu révolutionné le foot et imposé un peu à tout le monde sa façon de jouer. Et bon, ça tombe bien en plus d'époque, parce que on dit de confiner l'adversaire, et là on est en confinement, donc
Alors nous, on a Paulo Breitner dans l'after qui nous en parle depuis des années, du Gegenpressing. Donc en français, c'est le contre-pressing, hein. Donc il faut que tu nous définisses le concept pour ceux qui savent pas, et ensuite on débattra ensemble.
On en a parlé quand même beaucoup, Gilbert.
Oui, dans l'after. Il y a des gens qui écoutent pas l'after tous les soirs, tu vois. Faut penser à tout le monde, Daniel. Vas-y.
Ça m'étonne, des gens qui écoutent pas l'after tous les soirs. Par contre, j'en connais très peu.
Non, le concept est finalement assez simple. Hein. Enfin, ça a été les Allemands, on va dire, n'ont rien inventé. C'est ce qui avait été mis en place par Lobanovsky avec le Dynamo de Kiev. C'est ce qui avait été en plus aussi mis en place par Sacchi. En fait, l'idée c'est de
Sacchi avec Milan, la toile d'araignée, c'est un peu ça aussi.
C'est exact. En fait, celui qui a mis ça en place en Allemagne, c'est Ralf Rangnick. Et lui, c'est deux exemples, c'est Lobanovsky et Sacchi. Et en gros, l'idée c'est de prendre le temps et l'espace à l'adversaire, et de presser très haut en nombre, un espèce de chaos organisé. Voilà, c'est un espèce de essaim d'abeilles finalement autour de l'adversaire. On presse à 3-4 éléments sur un joueur pour récupérer haut et marquer très rapidement derrière. Mais après, il y a plusieurs façons de le faire. Pep Guardiola faisait un Gegenpressing aussi avec le Barça, sauf que lui, c'était pour récupérer le ballon et le garder et faire des phases de conservation de balles très très longues. Klopp et Rangnick, c'est pas du tout ça l'idée, c'est de récupérer et de marquer en une dizaine de secondes derrière et enchaîner
très vite. Ouais.
Ouais, alors eux d'ailleurs, ouais, on en reparlera, mais t'as l'impression qu'en fait le style Guardiola, ça les emmerde. Hein. Ils te disent clairement si c'est pour un ballon. Et eux, ils veulent que ça aille vite, que ce soit vertical. Et en gros, que ça taquine le ballon, ça les saoule.
C'est une fois que c'est dans l'utilisation que ça change. Il y a de la temporisation et du séquençage avec Guardiola. Eux, c'est tu récupères, tu utilises vite. En fait, c'est de la vitesse, quoi.
Mais justement, le Gegenpressing, c'est quoi justement? C'est parce que si c'est faire le pressing très rapidement à la perte du ballon, ça a été fait. Je veux dire, c'est pas
l'Ajax, quoi.
Voilà. Par contre, est-ce que c'est justement l'utilisation qui en est faite derrière qui est considérée comme le Gegenpressing, ou parce que c'est ça le puisque moi on parle de Klopp avec Jérôme, on commente tout ça un peu en anglais. Ce qui est spectaculaire, c'est ça, c'est que ils sont capables de rester très haut quand ils perdent le ballon, mais aussi d'aller très vite quand ils le récupèrent, quoi. Donc
est-ce qu'il est le plus impressionnant, Eric, toi qui les regardes et qui les a commentés plein de fois, mais Jérôme aussi, c'est pas la débauche d'énergie, la générosité. Est-ce que c'est pas ça qui est le plus épatant? C'est l'impression qu'ils peuvent le refaire sans arrêt, cette histoire de pressing, de revenir à la charge, de rester haut, tu vois. Mais d'ailleurs, Klopp, dans l'interview qu'il avait accordé à SoFoot, Klopp, Maxime, il expliquait que finalement, ça passe aussi par l'acceptation des joueurs d'un dévouement sans faille, quoi.
C'est ce qu'ils expliquent pas mal, et ce que moi j'ai fait Ralf Rangnick aussi en interview du coup pour l'enquête, et c'est ce qu'il explique pas mal, c'est qu'en fait c'est un espèce de contrat social entre les joueurs. En fait, c'est la façon la plus collective possible de jouer au football, et en fait c'est quelque chose qu'on peut faire finalement qu'avec un effectif sans star. En Allemagne, on a mis ça en place à Hoffenheim, à Dortmund, et c'est des raisons économiques. C'était pour contrer un peu l'hégémonie des puissants, finalement, du Bayern, notamment du Bayern. Et en fait, l'idée, c'était de réussir via une autre façon. Et ils expliquent aussi beaucoup, et les études statistiques le montrent, c'est qu'en fait, les joueurs se fatiguent moins en jouant en récupérant haut, en prenant de l'espace, du temps à l'adversaire. Et en fait, voilà, en jouant comme ça, on se fatigue moins, et surtout, on peut le faire avec des plus petits gabarits aussi. C'est pour ça que Guardiola le faisait avec Barcelone. Et en fait, l'idée, c'est de, en fait, ils veulent pas se faire chier. En fait, c'est ce qu'ils expliquent beaucoup. Ils veulent un foot nerveux, spectaculaire. En fait,
c'est ce que j'explique toujours pour la Ligue 1.
C'est l'intensité dont on parle.
Quand je dis que c'est justement pas une affaire de moyens, mais que c'est une affaire de travail, de volonté.
Attention, il y a l'intensité que tu mets, et ça, entre guillemets, c'est à la portée de tout le monde. Quand je dis c'est à la portée de tout le monde, c'est-à-dire que physiquement, quand tu t'entraînes tous les jours, quand tu as des bonnes méthodes d'entraînement, tu dois être capable de le faire. Alors peut-être pas sur 50 matchs à l'année en jouant tous les 3 jours, mais tu es capable de le faire. Le gros problème quand tu fais ça, c'est qu'il faut des joueurs hyper intelligents.
En fait, il y a deux choses.
Il faut être habile techniquement pour une fois que tu as l'utilisation. C'est mieux si tu as Alexander Arnold ou Robertson pour centrer.
C'est surtout lucide, Jérôme. Daniel. Habile techniquement, et puis, je pense que les joueurs.
Et lucide, tu as raison. Très, ouais, c'est vrai.
Et puis, voilà, il y a plus la lucidité. Je vais un petit peu contre ce que tu viens de dire, Eric, là, sur le fait que tous les joueurs sont capables de courir, d'avoir
La caisse pour le faire. Normalement, oui.
Non. Bah oui, il suffit de s'entraîner.
Beaucoup d'entraîneurs l'ont montré.
D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que
après, c'est l'ami qui te manque. Mais la caisse, normalement, tout le monde peut l'avoir.
Ouais, tout le monde, je suis pas sûr.
Parce que si tu fais moins d'efforts.
Problème physiologique, que t'es asthmatique ou que tu peux pas courir, oui, évidemment.
Non, si tu manques une jambe, forcément. Non, parce que le très haut niveau, ça serait donné à tout le monde. Il y a beaucoup de joueurs qui pourraient y aller.
L'effort physique, Jérôme, l'effort physique, c'est pas.
Non, mais là, on parle de haut niveau. On parle pas de. Je dis pas que n'importe quel mec dans la rue, il peut le faire. Je parle de haut niveau. C'est-à-dire un joueur de foot qui joue dans un grand club ou qui joue même en première division, en Ligue 1, en France ou quoi. C'est-à-dire qu'il s'entraîne tous les jours avec une hygiène de vie. Il doit être capable de le faire. Après, s'il n'a pas envie, c'est autre chose.
Non, c'est pas une question d'envie, c'est une question de capacité aussi. Mais c'est la même chose d'un point de vue physique comme d'un point de vue technique dans tous les cas. Dire t'as des paliers à passer, il y en a. Au bout d'un moment, t'as beau mettre toute la volonté que tu veux, c'est pas forcément juste un problème de fainéantise. C'est parce que le mec il peut pas. Mais après, peu importe. C'est pas là le débat, il est pas là. En fait, le gegenpressing. Mais le gegenpressing, ce que SoFoot a fait, et le papier il est intéressant. Mais en fait, c'est pas contre ce papier. Attention, c'est pas une critique, mais on n'apprend rien. Ce que je veux dire, c'est que la façon de jouer de certains coachs, cette façon-là, déjà, il y a dans ce gegenpressing, il y a plusieurs façons de jouer au football. La preuve, c'est qu'il y a le style Guardiola qui fait donc ce fameux gegenpressing. Mais après, avec le ballon, il l'utilise différemment qu'un Klopp ou d'autres. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui veulent le mettre en place. Moi, j'ai connu des entraîneurs et même des entraîneurs que j'ai eus au centre de formation quand j'étais à Caen, que après, même en pro à Caen, on travaillait dans cette forme-là. Et je te parle de ça dans les années 90. Hein. Donc, comme quoi, il y avait ça qui est mis en place. Je pense qu'Eric l'a connu aussi. Eric, t'es pas de la même génération que moi. Donc, en fait, c'est une façon de le mettre en place. À l'entraînement, tu le fais. Tu fais des exercices pour mettre en place cette façon de récupérer à plusieurs, parce que ça, c'est le travail de zone. Mais le plus dur, c'est de le faire à 11 sur un terrain, sur un grand terrain, et de le faire pendant 90 minutes. Pourquoi c'est plus compliqué, Eric, parce que
après, je laisserai Maxime quand même, parce que c'est lui qui a fait le papier et il est venu nous discuter un petit peu avec nous. Mais pourquoi je mets la dimension physique dans un coin, en disant tout le monde peut le faire quand tu es professionnel, c'est pour mettre cette dimension physique de côté. Parce que pour moi, dans le gegenpressing, ou dans le pressing, parce que bon, là c'est le mot à la mode et tout, on va dire dans le pressing à la perte du ballon, il y a pour moi une question d'intelligence des joueurs, d'intelligence tactique, d'intelligence situationnelle. Quand tu regardes Firmino ce qu'il fait à la perte du ballon, parce que tu es pas obligé de le récupérer à 20 mètres du but adverse, le ballon, tu peux le récupérer plus haut. Et lui, tu regardes ce qu'il fait. Et puis surtout, pour moi, il y a le joueur le plus important dans ce truc-là, parce que malgré tout, il y a un déséquilibre, puisque tu es 5 joueurs autour de deux adversaires. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des endroits sur le terrain où il y a des trous. Et donc, il y a un déséquilibre vers l'avant. Eh bien, regarde Klopp, quand il est arrivé et quand il a récupéré Van Dijk. Regarde le changement. Parce que pour moi, le facteur est chez Saki. Tu regarderas ce que faisait Baresi. Pour moi, le joueur le plus intelligent, c'est lui. C'est-à-dire, c'est le mec qui est capable d'être en défense centrale, de jouer des 1 contre 1. C'est-à-dire, intelligent tactiquement, qui va vite, qui anticipe tous les ballons. Et cette espèce de numéro 9, qui est souvent aux avant-postes quand il faut commencer à faire le principe, puisque le ballon, généralement, tu l'as, tu le perds un peu haut. Eh bien, regarde ce que fait Firmino quand il est sur le terrain. Eh bien, ça, tu peux pas le faire avec, et c'est là où c'est intéressant, parce que Klopp, il a formé son équipe pour jouer comme il veut. Et il n'a pas fait l'inverse, c'est que il faut des mecs qui se mettent au service des autres, c'est-à-dire pas d'ego développé, capable de courir comme un lapin pour le copain et tout. Et ça, malheureusement, chez les stars, ça n'existe plus.
Alors, j'aimerais quand même que Maxime nous raconte un peu ce que te raconte Peter Zeidler. Alors, Peter Zeidler, on le connaît en France, il a entraîné en France, il a entraîné à Tours, à Sochaux, c'est un ami de Paulo Breitner d'ailleurs, et il a été un des concepteurs du gegenpressing. Il y a un truc assez intéressant. Il dit, pour faire ça, on a voulu prendre au départ des joueurs qui n'avaient aucune, il prend une image informatique, il dit zéro mémoire interne, c'est-à-dire rien dans le disque dur, afin de les formater comme ça, quoi, en fait, Maxime.
Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est ce qu'ils expliquent pas mal aussi, c'est que, en fait, il faut avoir, c'est ce qu'on disait, ce que vous expliquez aussi, c'est qu'il faut, pour l'intensité, avoir des joueurs qui sont prêts physiquement. Et en fait, quand ils disent rien sur le disque dur, c'est qu'en fait, c'est ce qu'a fait Rangnick quand il est arrivé à Hoffenheim en 2006, c'est qu'en fait, ils ont décidé de prendre des joueurs, aussi pour des raisons économiques, qui n'avaient rien fait dans leur carrière, donc des joueurs qui avaient entre 19 et 23 ans. C'est là où ils ont pris Luis Gustavo, Dembaba, Ibi David, ces joueurs-là, et qui, du coup, n'ont rien à perdre et tout à prouver, et qui n'ont, en fait, qui acceptent tout ce que leur coach va leur dire. Donc, il faut des joueurs jeunes qui n'ont rien prouvé, et surtout, et je pense qu'il y a un truc dont on ne parle pas, c'est un truc culturel, parce que Peter Zeidler dit aussi que lui, il a essayé de mettre le contre-pressing en France, notamment à Sochaux, et que c'était devenu quelque chose, c'était impossible, parce qu'il disait qu'en fait, les joueurs français, quand on leur disait presser tous ensemble, il dit à un moment, j'avais l'impression de les envoyer à la mine. Et en fait, il dit que c'est un truc culturel, c'est qu'en France, c'est quelque chose, quand on leur dit de presser tous ensemble, pour eux, c'est laborieux. Alors qu'en fait, c'est peut-être le truc le plus jouissif, finalement, collectivement à faire, de récupérer le ballon ensemble pour ensuite attaquer ensemble. En fait, on joue tout le temps ensemble. Qu'en fait, c'est un truc, avec des jeunes joueurs, c'est possible. Et c'est aussi, par exemple, à Liverpool, ça marche, parce que Robertson n'avait rien fait quasiment avant d'arriver à Liverpool. Alexander Arnold, pareil. Firmino était très, il explosait en Allemagne, il était très peu connu finalement. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont explosé. Ouais, comme
enfin, ça, ils n'avaient pas à Liverpool, les mecs, ils n'avaient pas un disque dur vide, pour reprendre l'expression de Zeidler.
Mais ils avaient un passif dans leur carrière qui n'était pas du niveau d'un Liverpool. Ils avaient une base solide, mais ils n'avaient pas eu 5 coachs avant eux. Ils n'avaient pas gagné une Ligue des Champions avant. Voilà, donc ils prennent une base qui est assez neutre en fait à la base, et à Leipzig c'est ce qu'ils font en fait, le modèle Red Bull est construit comme ça, il est discutable mais il est construit comme ça, et qu'ils prennent des très jeunes joueurs comme ça, ils peuvent finalement leur en faire comme un laboratoire et en faire à peu près ce qu'ils veulent, et c'est comme ça que ça fonctionne aussi, quoi.
Mais Eric, c'est pour ça que je parlais d'ego. Parce que malheureusement, quand tu commences, et encore plus dans le football actuel, mais ça a toujours existé, hein, il ne faut pas croire qu'on était meilleur que les autres, c'est que dès que tu commences à avoir un statut, tu as qu'à voir, tu as beaucoup de grands joueurs maintenant qui, à la perte du ballon, ne défendent plus. Défendent. Il y en a, je sais pas. Hein. Je sais pas, vous envoyez, non, de temps à temps, non?
Ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison.
Voilà, donc.
Et après,
c'est
après
pour Eric, ça. Et même... pourquoi Bielsa? C'est une autre forme de. Mais pourquoi? Dès que tu as des aspirations, quand tu es entraîneur, que tu as des aspirations. Alors, je vais pas dire original, parce que c'est pas original. Finalement, il n'y a plus personne qui invente rien dans le football. On transforme, on adapte,
on réadapte.
Ou voilà.
C'est un peu
mais,
ça, là.
Mais par contre, il y a un truc qui est sûr aujourd'hui, c'est que un garçon qui a pris un certain statut, tu as du mal à le faire rentrer dans un moule. Et c'est pour ça que Bielsa, pareil, on dit toujours que de Bielsa qu'il a réussi avec des joueurs qu'il a fait grandir, qui n'étaient pas les grands joueurs, qu'il a fait devenir grand. Qu'avec les grands, il avait du mal, parce que c'est difficile de gérer des mecs comme ça. À la limite, tu t'adaptes à eux, ou plutôt qu'eux s'adaptent à ton système.
C'est aussi la difficulté quand on. Là, on parle par exemple, un mec comme Tourelle était très connu en Allemagne parce qu'il voulait mettre en place. Il est très proche de Peter Zeidler, mettre en place le gun pressing, il l'a mis à Dortmund, il voulait le mettre à Paris. Et c'est là qu'on voit aussi que c'est compliqué. Parce qu'un joueur comme Neymar, qui a déjà connu palanqué d'entraîneurs dans sa carrière, voilà, peine, par exemple, le contre-pressing, on voit que ça n'a pas toujours marché, notamment le match aller à Dortmund, où finalement, lui ne revient pas. Di Maria le fait très peu aussi. Mbappé, encore plus. Voit que si un ou deux joueurs ne le font pas, tous déséquilibrent. Et en fait, on peut pas jouer comme ça dans la sorte si un ou deux joueurs ne prennent pas, quoi.
Regarde d'ailleurs. C'est une façon après de le, c'est une façon de leur expliquer les choses, parce que moi j'entends bien sûr que, et Eric t'as raison, dire quand les mecs ont un ego surdimensionné, quoi qu'il y a beaucoup de fouteux qui ont un ego
surdimensionné.
Et après, un statut, mais c'est une façon d'expliquer les choses, leur faire comprendre, et puis après le groupe doit être plus fort. Et en fait c'est là l'avance qu'ont les entraîneurs qui réussissent, que Klopp par exemple, pour citer la référence, parce que c'est la référence aujourd'hui dans ce fameux pressing, devant la façon gérer ce groupe, c'est que même si en effet ce groupe est fait de jeunes joueurs qui n'avaient peut-être pas un CV très développé, tout ça, quoi qu'il y avait des joueurs déjà dans l'effectif qui ont connu une grosse carrière, mais après c'est une façon de présenter les choses et de c'est je sais pas si Eric tu penses la même chose que moi, mais quand tu juges un entraîneur, moi quand j'avais un entraîneur devant moi, l'entraîneur alors il peut avoir des idées novatrices, il peut t'expliquer, essayer de changer les méthodes d'entraînement pour que ça soit un peu plus ludique, mais tu le juges aussi sur ce qui se passe en match et comment il arrive à deviner les matchs, le scénario des matchs, comment, alors il y en a qui tu peux les prendre pour des devins, mais c'est dernièrement j'ai vu l'interview d'un putain, c'est quel joueur ça qui jugeait c'était Mourinho qui était jugé par John Terry et par Frank Lampard, et il disait, nous on était, quand il est arrivé à Chelsea, on était focalisé sur ses méthodes qui étaient novatrices, nous on changeait vraiment radicalement avec ce qu'on avait connu avant, et en fait il t'annonçait les choses sur le terrain déjà ce qui allait se passer. Et moi j'ai connu la même chose avec Didier, mais aussi avec d'autres qui sont peut-être moins connus. On en a eu Alain Perrin et tout ça, mais il t'expliquait plus ou moins le scénario de ce qui allait se passer. Et quand ce scénario il arrive 3 fois sur 4 sur les matchs, au d'un moment le mec, tu te dis bon bah quand il va me dire quelque chose, ou s'il me dit de courir un peu plus et de faire plus d'efforts.
C'est pas de la voyance, le coaching, Jérôme. Les entraîneurs font pas ça tout le temps, quoi. C'est un peu.
Mais c'est pas de la voyance. Ça s'appelle avoir un coup d'avance sur les autres. Et c'est une marque de. C'est du talent, en fait.
Alors, il y a un autre truc dont j'aimerais qu'on parle, Maxime. C'est que cette tendance tactique, en fait, en Bundesliga, elle s'est très rapidement étendue. Et en fait, maintenant, c'est devenu la norme.
Oui, c'est devenu la norme. En fait, il y a eu ce qu'on disait, donc Hoffenheim qui est arrivé en 2008 avec sa façon de jouer, donc avec Rangnick, donc qui fait une saison extraordinaire dès sa remontée et qui termine deuxième si je ne me trompe pas, et surtout qui est premier après la phase aller et qui perd juste Ibisevic et du coup perd plus ou moins le titre finalement là-dessus. Et après, du coup, il y a eu Klopp qui est arrivé avec Dortmund. Et surtout, il y a cette saison 2013 où le Bayern, Heinkel faisait aussi une forme de contre-pressing, où les deux font finale. Et là, tout change. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, en Bundesliga, sur les 18 entraîneurs, on va dire qu'il y en a une dizaine qui ont travaillé avec Ralf Rangnick, que ce soit comme assistant, que ce soit comme entraîneur à Leipzig ou à Salzbourg, et ils ont tous connu plus ou moins cette personne-là, et donc ont été construits par cette idée-là, et surtout pour certains viennent aussi de la même région qui est dans la région de Stuttgart. Et du coup, finalement, aujourd'hui en Allemagne, on va dire qu'il y a une dizaine d'équipes qui jouent avec ce fameux gegenpressing, et qu'en fait les matchs se décident finalement sur la façon, enfin, si ton pressing est efficace ou pas. Et en fait, voilà, la majorité des matchs se jouent là-dessus, ce qui donne aussi des matchs très emballés, très très, avec beaucoup de buts, beaucoup d'actions. Et voilà, c'était je pense que la saison 2012-2013, le titre de Dortmund avec de Klopp avec Dortmund, notamment il y a un match, une finale de Coupe d'Allemagne en 2012, un Dortmund Bayern où il y a 5-2 pour Dortmund, qui est un modèle absolu et qui change dans la tête des gens. Ils se sont dit voilà, c'est la façon dont on veut jouer au foot. Pour l'instant, l'Allemagne n'a pas pris ça en sélection, et on l'a vu à la Coupe du Monde 2018, mais ça pourrait venir.
Alors, il y a un truc par ailleurs, c'est que donc les Allemands le font, Ils le font quand ils partent à l'étranger, donc Klopp en est l'exemple numéro un. Mais en revanche, on a l'impression que ça a du mal à essaimer. Je sais pas, on a pas par exemple deux trois coachs en France qui sont arrivés en disant moi je vais faire pareil, ou des mecs en Espagne. Tu vois, ça a du mal à sortir des frontières allemandes quand même.
Ouais, ben ça,
en tout cas, des têtes allemandes.
Pour l'instant, ça sort pas trop des têtes allemandes, même si les Allemands, en fait, dans nos recherches, on s'est rendu compte qu'ils s'étaient pas mal inspiré de Daniel Van Dupeu, qui avait mis un des premiers la zone en France.
Tu l'as vu, Jérôme, Van Dupeu?
Exactement. Mais tu sais, non, mais je te parlais de Caen. Ben, c'est exactement ça. En plus, j'avais pas vu que vous parliez de ça, de Jean Dupeu. Mais c'est vrai que moi, c'était la période Jean Dupeu, en fait. Hein, moi, quand je suis arrivé au centre de formation, et Daniel et Pascal Théo, après, qui était mon directeur de centre, qui a pris l'équipe, avaient les mêmes principes de jeu que Daniel. Et c'est vrai que cette zone, comment on l'a répété à l'entraînement. Alors, il y avait beaucoup de boulot, hein. Des fois, on passait 2 heures sur le terrain. Alors, oui, on n'est pas habitué en France, ça faisait chier certains. Mais ceux que ça faisait chier, bah, il avait la faculté de les écarter, tu vois. Et à l'arrivée, vraiment, moi, ils m'ont énormément appris là-dessus sur la zone, comment ils l'utilisaient. Vraiment, Daniel Jean Dupeu, c'était une référence, et comme Pascal Théo derrière.
Daniel Jean Dupeu, il a écrit des bouquins en Allemagne, finalement. Il a donné beaucoup de conférences, et les coachs actuels se sont pas mal inspirés à l'époque.
Oui, il a un côté universitaire, Jean Dupeu.
C'est un peu le professeur, c'est sûr. Et après, bon, là, l'enjeu aussi pour les Allemands, c'est qu'à part Klopp, ils s'exportent finalement assez peu avec ces idées-là. Tourelle, on voit que, bon, là, Paris, ça prend par séquence, ça prend moins par d'autres. Là, par exemple, l'enjeu, c'est que Rangnick, qui a donc mis ça en place en Allemagne, est annoncé, par exemple, avec beaucoup, beaucoup d'insistance à Milan. S'il prend le Milan AC, qui est en plus le club qui l'a inspiré avec Sacchi, ça pourrait être très, très intéressant à suivre. Mais c'est vrai que, pour l'instant, en France, peu d'entraîneurs décident de faire ça, parce que c'est aussi un football qui demande du temps. En France, on n'a pas beaucoup de temps et on demande beaucoup de résultats.
Il y a des variations d'effectifs qui sont trop importantes.
Ouais, bien sûr.
Les mecs gèrent beaucoup leur carrière perso parce que ils doivent se montrer avant pour être vendus. Donc c'est des projets qui en France sont très compliqués. Je répète quasiment tous les soirs qu'il y a trop peu de projets sportifs en France, et ça c'est.
Bah,
ça, c'est
cette année, il n'y a pas de projet sportif à part peut-être. Il marche pas trop, c'est Lucas Elsner à Amiens qui essaie de proposer un truc un peu différent, mais c'est compliqué.
Mais on en revient toujours à ce que je te disais tout à l'heure. Il y a la dimension physique, il y a la dimension QI foot. Alors quand on dit QI foot, on met tout là-dedans. Mais c'est-à-dire de parce que attention, quand les déplacements au moment de la perte du ballon, et quand les premiers, notamment les attaquants, donc commencent à chasser, comment tu réagis derrière, notamment les milieux de terrain, les latéraux qui du coup montent d'un cran, quitte à laisser de la place dans leur dos, parce qu'ils veulent réduire les espaces dans le truc. Et donc tout ça là, je suis pas sûr.
Oui, ça se joue à 10.
Ça se joue à 10. Il y a l'esprit de sacrifice pour les autres. Je suis pas sûr que dans le football actuel, où on veut mettre en avant des garçons pour les faire flamber, pour les vendre, et où tu as raison, les présidents qui changent tout le temps, ou les entraîneurs qui changent tout le temps, ou même les directeurs de centres de formation. C'est-à-dire, c'est quand même un travail à long terme dans tous les échelons du club, avec une philosophie quand même particulière. C'est difficile dans un championnat où un jeune joueur, tu le gardes 2 ans. Un entraîneur du centre de formation, tu te le fais piquer, les prises d'âge changent comme et ça comptait les entraîneurs principaux, quoi. Donc c'est compliqué, hein. Regarde Klopp pour y arriver, comme le temps il a mis.
Et puis il faut avoir envie.
Jérôme,
il faut avoir envie de aussi. Je vais plus dans le sens de Daniel. Par moment, je suis un peu contre lui, parce qu'il y a des exceptions, bien sûr, mais il y a aussi, quand tu veux mettre ça en place, Eric, tu viens de le dire, sur le pressing, la prise de risque, savoir ce que le latéral il doit faire, le milieu de terrain, la défense, elle doit être haute ou reculer un petit peu, 1/2, il y a énormément de travail, c'est énormément de passages vidéo, c'est énormément de travail tactique sur le terrain, et je sais, parce que j'ai fait quasiment toute ma carrière en France, il y a des groupes qui peuvent pas adhérer à ça. En fait, t'as des joueurs qui lâchent trop vite.
En fait, est-ce que le football latin, est-ce que le football latin peut adhérer à ça? Vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr, mais oui, tu peux adhérer.
Le Milan AC, il se quoi, c'est
nordiste. Ça a marché. Zeman faisait ça dans le sud de l'Italie avec Foggia. L'Italie était à genoux devant Zeman et devant les entraînements qu'il faisait, les charges physiques qu'il imposait à ses joueurs et le football de rêve qu'il a fait pratiquer à beaucoup de ses équipes à Rome, même à la Lazio et à Foggia quand il s'est révélé. Mais non, ça n'a rien à voir.
Je peux vous raconter une anecdote avec Zeman quand même, parce que j'ai été éphémère directeur sportif de l'OM pendant 8 mois. Et j'ai en charge de.
C'était mieux que Zoubi, hein.
J'ai en charge de trouver un entraîneur.
Non, tu l'as approché.
Ben je l'ai approché. J'ai déjeuné avec lui à Monaco. À Monaco, bien sûr. Moi, c'était ma première idée à l'époque. Zeman, et je le rencontre à Monaco. Et
finalement, il y a eu Gérard Gilly.
Ah non, pas du tout. C'est Abel Braga qui est venu derrière.
Abel Braga. Ah bah oui, c'était une tentative aussi.
Et Abel Braga, je le rencontre en allant.
Attends, reviens à Zeman.
Rien, parce que pour moi.
Et pourquoi ça s'est pas fait?
Comment t'as parlé
parce
de quoi
il a croisé Roland au casino, est parti jouer au casino avec Roland.
Non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça?
Parce qu'il fallait sortir une connerie.
Ah non, mais il était. Si tu veux, alors je sais plus pourquoi ça a capoté. Si c'est financièrement ou si c'est par rapport aux exigences qu'il avait sur les joueurs.
C'était
l'année 99-2000.
Et toi, tu savais quoi de lui? Tu l'avais. Comment c'était nourri ton intérêt?
Parce que il était passé. Enfin, il avait déjà sa réputation à l'époque, puisque il est où la saison d'avant où ça tourne mal? Il faudrait que
je regarde.
Ouais, regarde parce que j'aurais dû le préparer le truc. Je savais pas qu'on avait parlé de Zeman, mais il était sans club et en discutant.
Il a fait l'herbatché à ce moment-là.
Il est à Fenerbahçe, il finit
ouais. Et juste avant, il était à la Roma.
D'accord, ouais.
Après, il s'est foiré à Naples, je crois. C'était Naples aussi, ouais. Complètement foiré.
Pour moi, si tu veux, nous, dans la philosophie du club à l'époque, il était. On serre un peu les vis.
Pour être précis, il terminait à la Roma quand tu l'as vu. Parce que la saison 99-2000, il va à Fenerbahçe.
Ah, voilà, c'est ça. Et donc, on est. Alors, peut-être que c'est eux qui nous l'ont piqué avant aussi. Mm. Parce que moi, après, à un moment donné, ça sort de mon. Tu vois, ça sortait de mon truc de compétence. Mais, en tout cas, j'ai déjeuné avec lui à Monaco. Parce que pour moi, et vu la politique du club à l'époque, c'est-à-dire que c'était. La période après toutes les stars de 98 qui avaient flambé, les Dugas, l'équipe qui avait failli être championne et qui y avait peu récession, quoi. C'est-à-dire il fallait un mec qui vienne avec des idées fortes et qui demande pas des stars. Et lui, pour nous, c'était le top. C'est-à-dire qu'on avait l'assurance d'avoir un entraîneur performant, un entraîneur qui allait faire bien jouer son équipe, parce que c'était pour moi une obligation à Marseille, et surtout qui demandait pas les meilleurs joueurs du monde, quoi, tu vois. Et ce mec, il m'avait fasciné parce qu'il est d'une froideur et d'une.
Il s'est fait quoi, un paquet de clopes pendant le déj?
Ouais, comme le club.
Ouais. Il était avec deux gars là. Et il m'avait fasciné. Il avait une personnalité.
Maxime, merci en tout cas. C'était intéressant. Donc c'est dans le pro. Il sort quand ce foot là?
Il sortait aujourd'hui. Il sortait depuis aujourd'hui.
Très bien. Et ben les kiosques sont encore ouverts, donc profitez-en. Ça fait de la lecture pendant la période de confinement. Merci Maxime.
Merci.
Bonne soirée.
Merci.
Alors, on change de dossier dans quelques instants. On change complètement d'univers. Hein. On va faire de la tactique, mais un peu différente. Avec le business.
Je sens que c'est le moment que tu attends le plus.
Non bah oui. Toi, tu as un truc à nous dire, Gilbert. Vas-y, dis-nous. Vas-y, lâche-toi.
Tu sais, moi, les cheveux, j'en ai fait. Ça y est, c'est réglé. Voilà.
Merde, qu'est-ce que ça pourrait être? Tu n'as pas d'arthrose, on est d'accord?
J'ai toujours des problèmes de tendons d'Achille.
Si tu n'as pas d'arthrose, donc je ne vois pas qu'est-ce que ça peut être. Je ne comprends pas, Gilbert. Qu'est-ce qui te fascine idée. Chez Kita?
Eh ben, on va en parler dans quelques instants. Dans l'after, ne bougez pas, on revient tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
Éric Dimeco est là, Jérôme Rotten également, Daniel Riolo, bien sûr, jusqu'à minuit l'after est là. Je rappelle que dans un quart d'heure, Julien Cazard nous rejoint pour le 3e, 8e de finale du grand tournoi de l'after. Ce soir, le 8e oppose Éric Dimeco. Kevin Diaz qui révise comme un dingue, mais ça ne sert à rien pour ce quiz. C'est pas du tout le kick.
Ah ouais, là c'est
voilà.
Là, c'est de l'inspiration.
Ça se joue à la culture générale.
Ouais,
c'est pas
au talent pur.
Au talent pur, exactement.
Oh, je sais pas. Non, le talent, non, parce que depuis qu'on fait par ça, contre, là, donc, c'est le troisième. Ouais. C'est une catastrophe.
Mais non, par mais contre, j'ai écouté l'escroquerie de lundi soir, donc c'est perso dit rien, quoi.
De quoi,
voilà, bravo Eric.
Non,
bravo.
Merci Eric.
Donc dans
merci.
Votre, dans votre merci. Émission, merci. Dans votre émission, le patron vous chie dessus et personne ne dit rien.
Bah, non, allez, dans le dernier.
Non, mais moi, après, à un moment donné, si on m'explique les règles, moi, je les applique après. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon, le patron, il chie sur la table, tout le monde dit bravo.
Tu sais peut-être que le vainqueur de ton match m'affrontera. C'est peut-être pour ça que tu commences à mettre un peu la pression.
Aïe, aïe, aïe.
En quart de finale.
Ah, j'avais pas vu le tableau.
Eh oui, mon vieux.
D'accord.
Eh oui. Alors, pour finir sur le gegenpressing, j'ai un petit message quand même. JC nous dit est-ce que finalement Bielsa, c'était une sorte de gegenpressing ou pas ?
Il était plus dans le.
Bah c'est, oui, c'est différent,
oui.
Bizarre, mais.
Si. Non, c'était une volonté de récupérer très vite.
C'est vrai que le bloc était haut.
Le bloc était haut. Mais lui,
après, le problème, c'est quand tu.
Mais lui, il insistait plus sur l'intensité avec le ballon.
Aussi. Oui, mais attends, l'intensité, tu l'as avec le ballon aussi quand tu le récupères haut. Tu as vu Liverpool à quelle vitesse ils vont devant les mains. Les allers-retours qu'ils font.
Non, mais la base de gegenpressing, c'est la récupération du ballon. Lui, Bielsa, il n'assistait pas sur la récupération du ballon. Il assistait sur l'utilisation du ballon. C'est quand même différent.
Si. T'avais un pressing à la perte de la balle. Et après, quand ils avaient le ballon, les intentions, c'était d'aller très vite devant.
Ça, après, il pouvait varier, lui, parce qu'il pouvait changer. Un coup, il pouvait te mettre une individuelle. Il pouvait te changer.
C'est vrai.
Le joueur de place. Il était capable de faire jouer les latéraux très haut, voire même de les faire jouer devant notre latéral s'il fallait pour aller. Dans sa panoplie, dans son éventail, il avait la possibilité de faire le pressing, mais il ne le faisait pas tout le temps. Il était capable de partir de derrière et de relancer proprement aussi.
Ouais, donc c'était plus large comme stratégie, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs plans, quoi, en fait.
Ouais,
exactement.
Et puis j'ai Taf qui me dit finalement la seule équipe allemande à ne pas pratiquer le gegenpressing, c'est Strasbourg. Ça c'est intolérable comme tweet. J'aurais pas dû.
Avec Gilbert Grèce, oui, mais avec Thierry Loret, non.
Messieurs, passons à notre ami Valdemar. Ronan Beauchère est avec nous. Ronan, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Ronan, toi t'es allé pour SoFoot enquêter sur le business de la beauté de Valdemar Quitta. Le papier s'appelle Enlarge Your Kiki. Mais qu'est-ce qui t'a pris ?
Enlarge Your Kiki.
Qu'est-ce qui nous a pris, c'est que ça venait tout le temps comme une espèce de petite question, souvent la dernière question de chaque interview avec Valdemar Quitta. Et on parlait tout le temps un peu. Sans trop en parler de son business, donc on s'est dit allons voir un peu ce que c'est et puis essayons de lever au-delà des fantasmes ce que Monsieur Quitta a fait.
Et il a été ouvert pour vous en parler.
Oui, il nous a reçu une bonne heure dans son bureau parisien, donc c'était tout le temps comme d'habitude assez drôle et punchy comme discussion, mais en tout cas il nous a répondu, donc on était plutôt contents.
Alors, et tu sais que chez nous aussi, sur RMC, il en a parfois parlé. Et puis également dans l'émission Transversale que présente Daniel avec brio. Écoutez, tiens, un extrait de Transversale. Donc, c'était il y a quelques semaines.
Ça rend plus sûr de nous tous quand on a un bon sexe.
Voilà.
Un bon.
Ça nous rend tous plus sûrs quand on a un bon sexe.
Mais qu'est-ce que. Si vous voulez, je veux bien qu'on fasse un débat pour savoir ce qu'est un bon sexe.
Attends. Parce que,
il
dit un beau, mais avec son accent, vous le comprenez bon, mais c'est beau. En fait, le business de Quitta, uniquement Ronan, l'élargissement de pénis. Ce n'est qu'une infime partie de tout ce qu'il fait, en fait.
Ah oui, c'est vraiment une infime partie. Puis même si vous mettez un peu le nez dans une clinique de médecine esthétique, ça reste les élargissements de pénis et des opérations marginales par rapport à toutes les opérations de chirurgie esthétique. Donc c'est vraiment une loupe médiatique sur finalement une toute petite partie de son chiffre d'affaires.
Mais c'est surtout que en plus la technique, d'après ce que j'ai compris, il adapte juste une technique de chirurgie esthétique qui s'applique ailleurs sur le corps.
Sur les rides, oui, par exemple.
Oui, voilà, c'est tout, quoi. Il a dérivé parce qu'à un moment donné, il y a peut-être eu une demande particulière, mais c'est pas son fonds de commerce au départ.
Non. Au départ, il était vraiment sur. Il était optométriste, pardon, de formation, donc qui était plutôt dans les lentilles de contact. Ensuite, il a développé une fringue anti-ride qui a bien cartonné. Et puis, il a revendu sa boîte. Et puis, il a racheté le FC Nantes. Puis ensuite, il est revenu sur le terrain de la médecine esthétique.
On n'en parle pas souvent quand même, parce que c'est vrai que nos présidents de club, bon, on les connaît dans l'exercice de leur fonction de président. Alors souvent on les allume quand ils font des déclarations qu'on comprend pas ou quand ils gèrent mal leur club. Enfin, il y a quand même un certain nombre de nos présidents qui ont vécu des histoires entrepreneuriales assez extraordinaires. Et Kita, c'est le cas en l'occurrence, Ronan. Enfin, c'est incroyable ce qu'il a fait.
En fait, Kita, c'est même ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'origine, donc il vendait des implants pour des lentilles, on va dire intraoculaires. Et les progrès chirurgicaux ont fait qu'il était difficile pour les chirurgiens de placer cet implant. Et donc, ils ont demandé à Kita d'inventer une espèce de protection viscoélastique qui est en fait de base d'acide hyaluronique. Et c'est ça ensuite qu'il a développé sur différentes propriétés qui allaient de cette protection pour la chirurgie des yeux jusque le comblement des rides, et puis ben maintenant l'élargissement.
Le comblement de la grosse ride,
ouais. Alors, oui, vas-y, Eric.
Non, mais attention, tu sais, d'ailleurs, c'est intéressant de parler des présidents sous cet angle-là, parce que ne jamais oublier quand ces gens-là arrivent dans le foot, et quand d'un coup, du jour au lendemain, ils pètent un câble, ou alors ils ont l'air un peu prétentieux, ou alors un peu sur deux, c'est que généralement, ils ont réussi dans les affaires. Réussir dans les affaires, ça veut dire être d'abord très intelligent, aimer le risque, avoir du courage. Généralement, ils ont mis leur monnaie. Il y en a quand même qui ont même déposé le bilan, recommencé et tout et tout. Donc, c'est-à-dire, c'est des mecs qui ont des vies quand même particulières. Et quand ils arrivent dans le foot, eh ben c'est tellement irrationnel le foot que ils ont tellement réussi ailleurs qu'ils veulent presque t'expliquer le foot au départ, tu vois. Alors après, ils rentrent dans leur rang au bout d'un moment parce qu'ils prennent des claques.
Lui, c'était aussi parce qu'il était passionné et qu'il adorait ça.
Oui,
aussi,
mais il racontait quand même, j'ai mon diplôme, je peux aller sur le banc. C'était quand même le truc de Kita au départ, ça.
Aussi. Oui, non, mais cette prétention-là, elle s'explique aussi par son histoire de vie, quoi, tu vois. Quand tu réussis dans les affaires comme il réussit.
Ouais, c'est vrai.
Tu te dis, bon, mais le mec, il dit comment les petits footeux, là, ils sont osés sur un ballon avec un truc, ils vont m'apprendre, tu vois.
Alors, je reviens quand même à son activité. Il y a deux, trois anecdotes dans le papier qui sont très drôles. Alors, il y a notamment Gauthier Ganaille, l'ancien président de Nice, qui dit oh, ben moi, il a carrément parlé de rajeunissement de vagin à ma femme. C'était assez chaleureux, dit Gauthier Ganaille.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Donc, Rondon,
il y a des choses aussi, je ne les comprends même pas d'un point de vue. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire.
Mais Daniel, tu sais que maintenant, tu peux même te refaire une virginité si tu veux.
Ah, évidemment.
Et voilà, donc.
Là, toi, t'es trop en avance, Eric.
Ah non, c'est pas être en avance, c'est.
Bah non, mais ça fait très longtemps que ça existe.
Bien sûr, bien sûr.
Les gars, excusez-moi de pas savoir ces choses-là, pardon.
Ronan.
On peut tout faire, Daniel.
Ça consiste à quoi, là, le rajeunissement?
Ah, je sais pas.
C'est une vraie discussion que vous allez entamer maintenant, là, en direct.
Je sais pas si c'était une réponse, mais nous, on l'a pas.
Non, moi, je dois savoir à peu près ce que c'est.
Je pose la question à Ronan.
Mais non, mais Ronan, c'est mieux, Ronan.
Toi, Eric, t'as fait pas mal de vagin.
Vas-y, Ronan.
Non, mais c'est le produit peut aussi servir à rajeunir, oui, le vagin des femmes ou à les regonfler, par exemple.
D'accord.
C'est possible.
Ah, oui, mais il y a même de la chirurgie où on coupe les lèvres qui ont tendance à bon, allez, on m'emmerde, vous m'emmerdez là.
Non, mais
allez, envoyez le jeu, allez, on peut parler de trucs.
On peut parler de ça de façon. Non,
mais t'as pas été adjoint de Kita, toi, avant d'arriver dans le foot.
Alors, moi, j'ai quand même une question. Valdemar,
non, mais on peut tout faire aujourd'hui.
Bah oui.
Tu peux changer de sexe, donc tu peux tout faire d'autre.
Il y a un truc quand même, c'est quand on voit Valdemar Kita, Ronan, il fait quand même des expériences sur lui-même. Parce qu'on voit qu'il a fait.
On voit surtout la teinture de cheveux.
Tu vois de son pantalon, toi?
Non, mais je veux dire, tu vois qu'il a fait un peu de chirurgie esthétique. Il est toujours bronzé. Il a toujours les cheveux. Là, je veux dire, quitte à sans coiffeur pendant le confinement, je ne sais pas comment on va le revoir après. Hein. Tu vois, c'est un mystère.
Valdemar Kita, c'est un homme qui prend soin de lui après.
Voilà.
Je n'ai jamais posé la question frontalement sur s'il utilisait toutes ses seringues. Je suis pas encore allé sur ce terrain-là.
Bah, ce serait dommage quand tu fabriques de l'acide. Comment ça se dit déjà?
Je sais qu'il en met dans ses genoux, par contre.
Voilà, ben ça marche super bien dans les genoux, ça c'est sûr. D'ailleurs, une fois j'avais discuté avec lui parce que il devait me faire passer du produit pour mes genoux, mes vieux genoux. Ah,
voilà, on va y arriver.
Voilà. Alors après, je te dis pas que je les ai remis dans le genou.
Non, tu les as mis autre part.
Jérôme, on aurait pu faire des essais aussi, mais quand tu fais ce produit-là, ben tu t'en mets dans les rides. S'il y a des rides sur le front, tu tapes un peu de temps en temps. C'est pas grave non plus.
Hein. Et donc sur RMC un jour, il nous avait expliqué clairement que son idée de l'utilisation de ce produit pour élargir les pénis, il l'avait eu dans les vestiaires de foot. En disant, ben moi, je regarde, les mecs dans les vestiaires, ben ils se regardent tous les uns les autres, et ben il dit, ben quand t'as un beau sexe, ben tu te sens mieux dans la vie. Voilà, c'est ce qu'avait expliqué tout à fait tranquillement Valdemar Quintin.
À Nantes, mais il a rendu service à certains.
Non, mais c'est la réalité.
À Nantes, sous les douches, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. C'est quand même là qu'est le surnom de Makelele.
Oui, c'est la douche Coco, Claude, qui est resté dans l'histoire du football quand même. Mais
pas être ta copine, toi.
Non, mais ça, c'est la réalité quand tu fais du sport et que tu as évolué dans un vestiaire de garçon où tu prends la douche. C'est vrai que c'est une vérité. Pour certains, c'est un traumatisme.
Tous les footeurs ont vécu ça.
Tous les footeurs ont vécu ça. Moi, j'ai vu des copains à moi qui mettaient un slip pour. Alors, c'était pas.
Tout le monde met un slip. Hein.
Voilà, maintenant, tout le monde met un slip pour d'autres raisons. Pour. Mais à l'époque, un mec qui mettait un slip pour aller prendre la douche, à mon époque, je peux te dire qu'on le remarquait. Hein. Tu savais qu'il avait un problème.
Tu lui as arraché le slip même. C'était ça le jeu à l'époque.
Non, pourquoi pas.
Enfin, quand on était gosse.
Ouais, non. Oh, on était cons, mais pas à ce point.
Ouais, ils torturaient les gens, j'ai bien.
Bah écoute, c'était comme ça.
Non, mais t'en as plein qui prennent la douche avec la main, qui prenaient la douche avec la main sur leur sexe, hein, pour le cacher. Hein.
On va conclure là-dessus cette série d'anecdotes intéressantes.
Oui, Ronan,
papier en tout cas sur le business de Valdemar Quintin dans le SoFoot qui est sorti aujourd'hui. C'est un des papiers à lire absolument. Merci Ronan.
Merci à vous.
Attention, Julien Cazard arrive. Je crois que c'était mieux qu'il ne soit pas là pour ce débat. Il arrive dans quelques instants pour le coup.
C'est surtout que c'est des clients les plus connus de Valdemar. <C'est>
ça. Ça rend plus sûr de nous tous quand on a un bon sexe.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Gilbert Bribois.
Eric Dibéco est là, Jérôme Rantaine est là, Daniel Riolo est là, et Julien Cazard nous rejoint. Julien, bonsoir.
Bonsoir, alors c'est marrant parce que je vois qu'Eric est très bien renseigné. Effectivement, je suis allé à la clinique de Valdemar Quintin. Alors, très beau résultat, puisqu'aujourd'hui j'ai 28 cm. Mais alors, est-ce que ça valait le coup pour 2 cm de plus? Pour 2 cm de plus,
Est-ce que ça valait le coup de casquer 10 000 pour 2 cm?
Pour 2 cm de plus, franchement. Mais bon, on les a. Voilà. En tout cas, je vois qu'il y en a qui connaît quand même.
Non, mais tu te racontes. J'étais pas dans la pub, j'étais en train de me dire, putain, mais Eric, tu travailles le jeudi soir pour raconter qu'on peut se faire couper les lèvres, changer de sexe.
Mais tu sais que là, on est quand même sur. Je pense, Daniel, je parle sous le contrôle de Daniel, on est quand même sur le podium des sujets les plus improbables de l'histoire de l'After.
Ouais, là, c'est vraiment.
On n'avait jamais abordé ce genre de choses. On avait beaucoup parlé de Quintin, mais jamais.
Oui, on va mettre ça sur le code du confinement, les amis.
On est content de savoir qu'Eric y est allé plus d'une fois, il l'a dit. Hein.
Alors, attention, le grand tournoi continue. Jingle.
Le grand tournoi.
Dans notre monde à nous, 1+1 égale 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Ou peut-être que 1+1 égale 11.
Je rappelle que le grand tournoi s'appelle le grand tournoi en hommage au fameux film de Jean-Claude Van Damme, Le Grand Tournoi. Il n'en restera qu'un à la fin. Bon, en l'occurrence, dans le film, c'est Jean-Claude, hein, vous avez bien compris. Dans l'after, on verra. Ce soir, 3e-8e de finale, après les qualifications brillantes de Jonathan McCarthy et de moi, Kevin Diaz nous rejoint pour affronter Eric Dimeco.
Déséquilibré aujourd'hui. Hein.
Kevin, bonsoir.
Ouais, salut les gars. Bonsoir.
Salut Kevin.
Salut Kevin. Ça va Kevin?
Moi, ça va. On est à la maison.
Ah, t'y arrives?
Ouais. Avec la famille.
Ça va, ça se passe bien, le moral est bon?
Ouais, le moral est bon. Vous manquez un peu, mais sinon, pour le reste,
ça va, tu supportes la famille, au bout d'un moment, t'en as pas marre, parce que je pense qu'il y a une belle génération de Xavier Dupont de Ligonnès qui va arriver, là. Donc, je pense qu'on n'est pas loin, là. Ça va, alors.
Bon, est-ce que t'es prêt à affronter Eric Dimeco?
Ouais, c'est un honneur, hein, quand même, d'affronter le king du Kikadi.
Oui, je suis
le king.
Ouais, au Master, je suis passé à la trappe, là. Champion du monde en titre, mais au Master de Kikadi, je suis passé à la trappe. Par contre, non, il m'inquiète, le petit Kevin, parce qu'il a l'habitude de jouer à ce jeu, non?
C'est vrai que.
Ouais, il a l'habitude de perdre aussi.
Il a quand même fait des matchs.
Normalement, je perds contre Gilbert, donc ça va.
Je rappelle les règles.
Alors, si tu perds contre Gilbert, quel joueur comme il a gagné lundi, mon ami?
Je rappelle les règles. On va jusqu'au gong. on va jusqu'au gong. Le gong, c'est la fin du chrono. Le chrono, j'ai sous les yeux. Là, on est à 9 minutes 40.
Hein. Allez, c'est parti. Hein.
Donc, Julien, c'est toi qui as la main. Évidemment, Jérôme, oui. Daniel et moi, nous sommes là, on va dire, dans et les tribunes.
Pas, et on peut pas faire, genre un petit joker, nous. On peut
non,
pas,
non,
bah,
non, non, on change pas les règles. On
toujours pas,
non,
non. Toujours pas, Daniel.
Par contre, on a le droit de réagir, par contre. Tu vois.
Voilà.
Alors, je tiens quand même. Pour éviter qu'il y ait une espèce de déferlante de noms qui sortent de nulle part, quand à un moment donné je demande une réponse, s'il y en a un qui répond le premier et que c'est pas bon, eh ben l'autre a le droit de répondre parce que sinon on peut ouais, dire 15 noms d'affilée.
J'ai entendu okay. ça. Qui sortait ces 4000 noms l'autre
soir, c'est Gilbert.
Ah,
c'est Gilbert.
Voilà. La règle n'était pas claire.
Moi je me Gilbert.
Tu sais c'est ça le football hein. Quand la règle est pas claire, bah tu l'utilises.
C'est vrai.
C'est la main de l'équipe MB. Alors allez, attention, est-ce que vous parti. Êtes prêts? On va commencer. Allez. Bah déjà, est-ce qu'il y a un jingle quiz?
Bah il est déjà parti déjà derrière toi.
Oui, ça est, ouais. Bon, d'accord. Alors écoutez, on va partir sur le quoi qui kiff kiff. Vous connaissez le quoi qui kiff kiff, Eric? Ouais, tu connais ouais. le quoi qui kiff kiff? Alors quoi qui kiff kiff? Italie, Brésil, Pays-Bas, Allemagne, Argentine. Italie.
C'est Brésil, ceux qui ont fait le plus de finales de Coupe du Monde en tout.
Non, pas exactement. Ça concerne la Coupe du Monde.
Ça concerne la Coupe du Monde.
Ils ont un point commun.
Ils ont. Et non, ils ont toujours joué en Coupe du Monde. Et non, ils n'étaient pas là.
Vas-y, Kevin.
Ah, ils ont. Franchement, je l'ai.
Ils
pas
ont fait quelque chose que les autres n'ont pas fait et qui est pas fait, qui est pas évident. Alors, par exemple, l'Allemagne.
Ils ont perdu deux finales de Coupe du Monde. Trois finales.
Alors,
de
je
coupe
bloque.
Du monde.
Je bloque. Ils ont pas ils ont perdu, perdu deux. Ils... Non.
Non, mais dis-moi. Moi, tu me bloques pas et lui, tu le bloques.
Je débloque. Je débloque.
Ils ont joué en finale, mais ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde.
Mais c'est ça. Oui. Non. C'est, alors, ils ont un point commun que d'autres n'ont pas parce que c'est pas évident. Alors, le Brésil et l'Allemagne.
Ils ont perdu contre l'Allemagne en finale.
Et l'Allemagne n'a pas perdu contre l'Allemagne en finale, jamais.
Ouais.
Bon, écoutez, j'ai le droit de répondre maintenant, moi.
Vas-y, réponds, vas-y.
Eh bien, donc, ils ont tous perdu au moins une fois contre les autres en finale de Coupe du Monde.
Non, alors c'est pas ça, je vais vous dire. Ce sont les seuls pays qui ont fait au moins deux finales d'affilée. Et oui, ils ont fait deux finales d'affilée, alors que la France n'en a pas fait. Les
putain,
autres l'ont pas fait.
Les finales d'affilée.
Alors, attention.
0-0.
Deuxième quoi qui kiff-kiff. Van der Vaart, Robben, Van Nistelrooy, Snyder.
Ils ont tous été meilleurs buteurs de la Ligue des Champions, non, de leur club.
Pas du tout.
C'est non,
pas
non,
du tout,
c'est par rapport à la sélection nationale. Donc ils ont
non,
tous
pas
plus.
Du tout.
Non plus.
Pas du tout.
Non, c'est pas ça.
Pas
non
du
plus.
Tout.
Moi, je crois
Van der Vaart. Alors je vous en rajoute. Je vous en rajoute un. Renteria. Drenthe, je veux dire. Drenthe.
Ah, ils sont pas passés à l'Ajax.
Ils ont joué au Real.
Ils ont joué au Real. Ils ont joué au Real Madrid. Le point est pour notre ami Kevin Diaz.
Je croyais, Julien, que c'était. Ils ont joué au Real et ils s'y sont pas imposés.
Ouais. Non, parce que Van Nistelrooy, il a quand même été bon. Van Nistelrooy, il était bon. C'est les autres qui sont ramassés.
1-0 pour Kevin.
Attention. Quoi qu'est kiff-kiff, David Beckham, Luis Suarez, Leonardo, Zinedine Zidane, Marcel Desailly. David Beckham.
Ils ont fait un pénalty en finale de... Non.
Alors, ils n'ont pas fait un pénalty, mais ils ont fait un truc qui n'est pas bien.
Ils ont pris un rouge en Coupe du Monde.
Ils ont pris un rouge en Coupe du Monde. Kevin Diaz, deuxième point. C'est chaud. C'est chaud. Attention.
Je lui donne, putain.
Comme tout, comme chaque jour, comme chaque jour, c'est la crise en ce moment. C'est la crise. Alors, qui connaît la crise? Et on va passer à la crise. Ben, la crise d'après 11 septembre. Donc, enfin, de l'année 2001. Hein, crise de 2001. Mais moi, je vais vous demander, donc, l'année 2000-2001. Magnifique année, hein, notamment en Ligue 1. Alors, attention. En Ligue 1, en 2000-2001, qui est champion?
2000-2001.
Qui est champion en 2001? La fin 2000. 2001, le PSG champion, mon pote.
Lyon.
Alors t'es loin. Stop. Lyon, c'est pas bon. À toi, Kevin. Vous avez chacun votre tour. Non.
Bordeaux.
Oh les gars, vous avez pas le droit.
Perdu. À toi, Dimeco. Oh, ben,
C'est l'année de.
Bon, moi, je l'ai.
De Lens.
C'est un club à grosse bite. Enfin,
Nantes.
Pardon.
Nantes.
Nantes.
Donne-lui la réponse. Ça va.
Eh ben, elle est pour toi, Eric.
Mais non, j'avais dit Lens. Donc c'était trop tard, moi.
Nantes.
J'ai dit
3-0.
Qui est dernier du podium cette année-là?
Dernier du podium.
Dernier du podium, ça veut dire troisième.
Ouais, podium des
trois. Oui, bravo.
C'est dernier 5 ou.
Non, c'est pas Bordeaux. C'est pas Bordeaux, c'est une équipe.
Bah, c'est Eric de parler alors.
À Lyon.
Non, à toi, Kevin. Non, Lyon, ils sont deuxième.
Je sais plus, moi, en 2001.
C'est une équipe qui
est un peu litre.
Lille.
Ah ouais,
quelle est Lille? Bonne réponse. Attention.
J'espère qu'il prend pas le.
4-0 pour Kevin Diaz.
J'espère qu'il a pas l'iPad ou l'iPhone.
Attendez, moi, vous êtes prêts?
Celui-là, ouais, celui-là il est pas évident.
Il est là, mais il l'a collé à l'oreille, l'iPhone.
Il a le téléphone à l'oreille, comment tu veux qu'il fasse?
Eh, qui est meilleur buteur nantais? Nantais champion de France, mais qui? Eh ben même pas. En 2001?
Ah, Pedros?
En 2001, non.
Non,
en 2001. À moi.
Ah, pardon.
C'est à moi.
Jérôme Rotten, il pourrait trouver.
Non, c'est pas la bonne génération.
Ah, c'est pas la bonne génération? C'est pas loco.
2001. Mais non, vous, c'est 95.
2001, là, vous parlez de 95. 2001.
Ah, 2001.
C'est à rien de parler.
C'est un ami.
Il a joué à Paris.
Non, t'as dit Endoram. Ah non, après, il a dit loco. Donc c'est à toi, t'as raison.
C'est à moi.
Non, il a pas joué à Paris.
C'est pas l'ami de Jérôme Bretel, le gaucher, comment il s'appelait?
Monterubio, c'est Monterubio qui fait les meilleurs buteurs du club en 2001. C'est improbable, mais
5-0.
Merci. Attention, merci, pour l'ami Jérôme Rotten.
En 2000-2001,
c'est mon karting.
Qui est français et qui joue à Kaiserslautern?
Oh, facile.
Jorkaeff,
oui, bien magnifique. Sûr. En 2000-2001.
Putain, mais Eric, ça a coupé ou quoi?
Il y avait deux phases de groupe en Ligue des Champions. Il y avait deux phases de groupe en Ligue des Champions. En 2000-2001. Et oui, il y avait deux phases de groupe. La première phase de groupe, qui, pour la France, qui est ridiculisé? Qui est humilié? Qui finit dernier de son groupe?
Ça, c'est parce que c'est Marseille, c'est ça que tu veux?
Mais non, mais t'es sérieux là? Non, t'es directeur sportif à l'époque, tu te rappelles? T'es manager général?
J'y suis plus, moi. Je reste que.
En 2000-2001? T'es pas manager général en 2000-2001?
Non, c'est Marcel Dib.
Non, il est directeur sportif, Marcel Dib. Bon, bref. Donc, il se rappelle même plus ce qu'il faisait, lui. Donc, bref, en gros, Marseille n'était pas en Ligue des Champions, mon bonhomme. Hein. Marseille n'était pas en Ligue des Champions. Il y avait un club qui était terminé de son groupe dernier derrière Galatasaray, les Rangers et Sturmgras. Ridicule. Dernier de son groupe.
Je me souviens.
Paris?
Non.
Non. C'était l'AS Monaco, vous n'avez pas trouvé. Il y avait une deuxième phase de poule. Qui a été humilié dans cette deuxième phase de poule en 2001? 2000-2001. Ah, c'est français, ouais.
Bah oui.
C'est français, c'est humilié. C'est une équipe qui a pris 4 buts en moins de 30 minutes. Contre l'équipe espagnole.
Le Paris Saint-Germain.
Je l'ai dit tout à l'heure.
Oui, mais c'était pour la, c'était pour le, c'était pas la bonne. Oui, tu dis la bonne réponse, mais c'est pas la bonne question. C'est dommage.
C'est la bonne question puisque tu parles d'une poule d'abord et d'une poule après.
Eh ben la première poule c'était Monaco, la deuxième poule c'était Paris Saint-Germain.
Vous voulez que je donne le score ou
tu dis qui était ridicule? Donc moi je te dis Paris, ils ont été ridicules dans la même année.
Non, dans la deuxième phase de poule Paris. Il y a eu deux phases de poule à cette époque. C'était une arnaque, cette Coupe d'Europe, elle était interminable.
7-0.
Excusez-moi, mais qui gagne la Coupe de l'UEFA en 2001? Qui la gagne? Et je crois que dans les gagnants.
Qui Valence
2001? Oh là là,
il y a un gagnant,
finale,
je crois qu'il a le ballon d'or derrière. Hein.
C'est une belle finale.
C'est le ballon d'or derrière, le mec.
Une belle
pas
finale.
Pas l'Inter Milan
non.
Non, c'est pas l'Inter Milan. L'Inter Milan, c'est 98.
Attends, c'est.
C'est Michael Owen, je vous rappelle, qui est ballon d'or hein, cette année-là.
Et donc Liverpool
donc, alors.
Oui, Liverpool, premier point, il s'est fait dépuceler.
Bravo,
il s'est fait dépuceler, c'est beau. Et qui gagne la Coupe des Coupes en 2001?
Mais il n'y en a pas.
Il n'y en a pas! Deuxième point pour Eric Dimeco, c'est énorme! Attention!
7-2.
Qui est vice-champion d'Europe en 2001?
Valence,
oui! Eric Dimeco, oh il revient dans le game!
Oh, c'est trop, je me...
7-3, il reste une minute, vite!
Qui est champion d'Italie en 2001? Qui est champion d'Italie?
Milan AC!
Non,
l'Inter!
Non! Non!
C'est l'ennemi de celui qui l'est l'année d'avant!
Eric, comme toi de parler.
Attends.
Mais non,
l'ennemi de celui qui est l'année d'avant.
L'année d'avant
en 2000.
La Roma. Premier.
Non, mais c'est à moi de parler.
Kevin Diaz.
Mais non, c'est à moi de parler, tu m'as dit.
C'était Eric.
Le point est pour Eric, c'était à lui de parler.
Ah oui, puisqu'il avait dit.
Il a dit la Juve, les gars.
Ça fait 7-4.
Eric, il a dit la Juve.
7-4.
Tu as parlé, c'était à moi.
Non, 7-4, il reste 30 secondes.
Attention. Alors, on va faire un kick anagramme. Je vais vous donner un nom. Vous trouverez l'anagramme qui est un joueur de foot. Attention, immolé au pluriel. Immolé. Faut aller vite.
Immolé.
Vous l'avez pas, d'amis de sommeil. Gésier au pluriel. Gésier.
Gésier.
C'est trop dur.
C'est quoi ça?
J.R.S. Vous l'avez pas. Tringle. Tringle au pluriel. Tringle.
Rideau.
Mais non, il a pas con, lui.
Anagramme. C'est fini. Oh là là.
7-4
Gilbert.
Mais c'est quoi?
C'est fini. 7-4 Oui.
Trengle, c'est quoi?
Alors moi, le dernier jeu, là, j'ai rien compris du tout.
Non, mais
non plus, j'ai rien.
C'est quoi?
Ah, Julien, si tu veux me faire perdre, je te l'annonce tout de suite. Sors ça contre le
Trengle. Alors, c'était Sterling.
Sterling, oh l'enculé.
Je vous en donne un autre pendant un signe.
C'est compliqué, là.
Un signe, par exemple. C'est signé, c'est le plus simple.
Signé.
Non,
il est c'est compliqué ce jeu.
J'en ferai plus. Non, c'est vraiment pour des gens.
Facile. Comment, ce jeu
c'est sympa à faire quand tu le vois écrit, mais à l'oral comme ça, c'est trop dur.
Non, c'est trop dur.
Bon, en tout cas, Kevin Diaz se qualifie. Et Kevin, tu affronteras.
Oh, Eric, merde.
Tu affronteras la tête de série numéro 1.
Je sais pas si je vais arriver à dormir.
C'est-à-dire
moi.
Il était temps que ça se termine.
Putain. Ouais, là, ça remontait sec. Ça remontait sec.
Ah oui.
Eric, désolé.
Fortuna Sittard qui bat l'Olympique de Marseille, écoute, c'est une grosse surprise.
Eric, il est meilleur sur les championnats que dans les coupes, en fait.
Pour me faire, escroquer contre Gilbert derrière, je préfère que ce soit Kevin.
Eric, je suis ravi de t'avoir appris que tu étais manager général et qu'il y avait Abel Braga. Ça dure jusqu'à novembre. Hein. Avec Abel Braga,
c'est
comme entraîneur.
99-2000
Mais non, je te jure, c'est toi le manager général à l'époque. Il y a Braga, et même ce qui est extraordinaire, c'est qu'au début, vous faites un bon début, tout le monde vous dit vous êtes, c'est extraordinaire, et toi tu dis attention, c'est un peu tôt pour s'enflammer. Et derrière, c'est une catastrophe.
Ok, alors tu sais que...
C'est fini, les gars. Merci Eric.
Ciao les amis.
Merci Daniel. Salut. Merci Julien. Merci Jérôme. Demain, le match opposera Nicolas Jamin à Lionel Charbonnier dans l'after, le 8e de finale suivant. After demain soir dès 22h avec Nicolas. Donc, bonne nuit à tous. Et
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.